Eh bien, bonjour à chacun. Comme vous le savez, depuis le temps, nous sommes dans une série de prédications sur le prophète Michée. Nous sommes maintenant au chapitre 4. Et je propose, sans attendre, de commencer la lecture. Et en fait, nous avons terminé le chapitre 3 avec un verset très poignant qui annonçait la destruction et la ruine de Jérusalem. Voilà. Et donc maintenant, écoutez le chapitre 4. C'est un renversement total de situation. Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes, et elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et les peuples y afflueront. Des nations nombreuses viendront et se diront les unes aux autres, « Venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites, nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. » Elle sera l'arbitre entre de nombreux peuples. Oui, il sera le juge de puissantes nations, même lointaines. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Chacun habitera en paix sous sa vigne et sous son figuier. Il n'y aura personne qui puisse le troubler. C'est l'Éternel qui a parlé, le Seigneur des armées célestes. Les autres peuples marchent au nom de leur divinité, mais nous, nous marcherons au nom de l'Éternel, lui qui est notre Dieu, toujours et à jamais. Donc vous vous souvenez du dernier verset du chapitre 3 que je vais vous lire à nouveau. Aussi, par votre faute, Sion sera labouré comme un champ et Jérusalem deviendra un tas de ruines. La montagne du temple sera une colline couverte de broussailles. Et voilà que Michée affirme maintenant, dès le verset 1 du chapitre 4, « Dans l'avenir, il adviendra que la montagne sur laquelle est le temple de l'Éternel sera fermement établie au-dessus des montagnes. » Elle s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs et les peuples y afflueront. Où est l'erreur? Quel contraste! C'est à n'y rien comprendre. Ce verset prend complètement à contre-pied le verset précédent. Ces trois mots, dans l'avenir, nous posent question. Mais quand est-ce que ce sera au juste? On aimerait bien le savoir. Mais on passe du présent de Michée au grand avenir, au règne à jamais, qui est dans le texte, autrement dit au règne éternel de Dieu, mentionné plus loin au verset 7, nous le verrons. Et cette ville de Sion, de Jérusalem, dont Michée annonçait la destruction et la disparition à cause de la corruption de ses responsables, des responsables du peuple, mais aussi des prophètes, vous vous souvenez des faux prophètes, eh bien cette ville de Sion est à nouveau debout. Et non seulement elle est debout, nous dit le texte, mais elle est fermement établie au-dessus des montagnes, pour le règne éternel. En fait, Michée nous annonce à son peuple, mais aussi à nous. Vous vous souvenez qu'au chapitre 1, au début du chapitre 1, Michée dit, oui, je vais parler pour Israël, mais vous, ô terre entière, nation entière, écoutez, c'est aussi pour vous. Et donc, Michée nous annonce à nous aussi que le royaume de David sera restauré. Jérusalem détruite, puis restaurée. Et cela en vue d'un règne, du règne éternel de Dieu. Jérusalem a bien été détruite, et même plusieurs fois. Dans la ville de Jérusalem d'aujourd'hui, on mesure par endroit... Tu portes la photo ? On mesure par endroit une couche de 30 mètres... de hauteur, au moins, de décombres. Vous voyez sur cette photo, je ne sais pas si ça sort bien, c'est des colonnes qui ont été enfin, dans une fouille. Ils ont dégagé tout ce qu'il y avait autour. Et en fait, il y a 30 mètres, peut-être pas exactement sur cette photo, mais sur d'autres, il y a 30 mètres d'empilement de décombres qui sont des accumulations de toutes les destructions de Jérusalem. Tu peux passer la suivante, s'il te plaît. Donc, Jérusalem a été détruite, mais a été reconstruite. Et là, vous voyez une règle qui est comme sur le pont de Morée pour le loin, où on voit la hauteur des eaux. Là, c'était la hauteur des ruines. Vous voyez, quand on visite Jérusalem, on voit cela. Donc, ces versets que nous avons lus attestent la véracité des textes bibliques. En outre, Michée nous dit que Jérusalem deviendra un pôle d'attraction pour des gens de toutes les nations qui se convertiront à l'Éternel et se soumettront à son règne pour vivre dans la paix. Michée annonce une véritable conversion à l'Éternel de païens qui se mettront à vivre selon la loi divine. Les païens recevront cet enseignement à Jérusalem. Et mes amis, c'est une très bonne nouvelle pour nous, une nouvelle dont nous sommes au bénéfice. C'est une nouvelle qui nous réjouit, et j'aimerais ce matin que vous ressentiez cette joie de cette bonne nouvelle. Et nous avons une nouvelle qui a pris sa source aussi au temps de la Pentecôte, ça a été rappelé dans la présidence, ça a été rappelé dans les prédications sur le livre des Actes des dimanches précédents. Et Michée, dans ce chapitre, ne parle pas encore du Messie, mais nous pouvons sentir que Jésus n'est pas loin. Certains voient dans la réalisation de cette prophétie comme un millénium, c'est-à-dire un règne terrestre de Jésus-Christ précédant l'établissement des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Cependant, l'apôtre Paul indique que cette prophétie commence à se réaliser. Premièrement, avec la conversion de personnes non-juives à partir de la Pentecôte, mais aussi par la paix établie à la croix entre croyants d'origine juive et croyants d'origine païenne. Et je vais vous lire un texte dans Éphésiens, c'est où Paul justement nous explique cela, et vous verrez ensuite d'autres réalités pour illustrer cela. Éphésiens 2, verset 12. « En ce temps-là, vous étiez sans Messie. Vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice du Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs. Il a abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse dans ses commandements et ses règles. Il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. » C'est l'apôtre Paul qui dit tout cela. Et cette paix annoncée par Michée au chapitre 4, comme devant arriver dans l'avenir, c'est le début du verset 1 du chapitre 4, c'est dans l'avenir. Eh bien, elle a commencé à devenir une réalité à partir de la Pentecôte. Et elle perdure encore aujourd'hui entre croyants, comme l'attestent de nombreux témoignages, et comme vous allez pouvoir le constater sur quelques photos. Vous avez là une photo que j'ai prise moi-même à Nazareth, où vous avez deux, trois Français ou quatre Français qui étaient en visite avec nous. Vous reconnaissez peut-être Danny Hameau complètement sur la gauche. Mais les autres pasteurs qui sont là, les autres pasteurs, c'était des pasteurs arabes de Cisjordanie, arabes d'Israël, des pasteurs juifs, donc d'Israël, des pasteurs palestiniens. Et tous ces pasteurs étaient là. Et tu peux enchaîner. Et nous avons pu prier ensemble, dans la paix. Et c'était une période où, justement, à Gaza, il y avait des... ça chauffait. On n'a pas pu aller faire tout ce qu'on voulait en Israël parce qu'il y avait des troubles. Mais en même temps que ces troubles, il y avait la paix, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Il y en a une autre. Et là, sur cette photo, c'était particulièrement émouvant parce que le deuxième à partir de la gauche, le deuxième pasteur à partir de la gauche, il venait de Gaza. Et quelques jours avant, sa librairie chrétienne qu'il tenait dans Gaza avait été brûlée. Mais il s'est retrouvé en prenant un itinéraire assez compliqué pour nous rejoindre à Bethléem. C'est une photo qui a été prise à Bethléem, dans une église. Et là aussi, vous avez des pasteurs de toute origine du Moyen-Orient qui se retrouvent dans la paix. Alors que l'on sait que dans cette zone, c'est plutôt en général la tension. Donc c'est un témoignage vivant, concret, de cette prophétie qui commence. Elle n'est pas complètement réalisée, mais c'est très encourageant. Alors, on voit qu'elle n'est pas complètement réalisée, cette prophétie, parce qu'au verset 3, si ceux qui ont leur Bible ouverte, vous pouvez regarder le verset 3b, eh bien, Michée dit que plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation. Malheureusement, on est bien forcé de constater qu'on n'est pas encore dans cette étape-là. Mais vous voyez que les photos illustrent le début de la réalisation de cette prophétie. Quelle bénédiction pour nous de pouvoir vivre, profiter de la réalisation, du début de la réalisation de ces prophéties de Michée. Et l'enseignement futur des prescriptions de l'Éternel mentionné au verset 2 par Michée est en fort contraste avec les faux enseignements délivrés à Jérusalem du temps de Michée par les faux prophètes dont on a parlé dans les prédications précédentes. Mais poursuivons, le chapitre n'est pas fini, les versets 6 à 8. En ce jour-là, l'Éternel le déclare, je rassemblerai les brebis, celles qui boitent et celles qui sont exilées et que j'ai maltraitées. Je ferai de celles qui boitent un reste qui subsistera, de celles qui sont exilées, je ferai un peuple puissant. L'Éternel régnera sur eux, sur la montagne de Sion, dès lors et à jamais. Et toi, tour du troupeau, toi, citadelle de Sion, ta souveraineté d'antan te reviendra, la royauté que possédait Jérusalem. Quand on regarde la montée en puissance du peuple d'Israël depuis l'esclavage en Égypte, depuis la conquête de Canaan sous Josué, depuis le règne de David et depuis le prestige du règne du roi Salomon, eh bien tout cela appartient désormais à une époque révolue. Ces progrès visibles au temps de David et de Salomon, cette position forte au sein des nations avait été l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Et quand on lit l'Ancien Testament, en particulier le livre du Deutéronome, on peut trouver des passages comme Deutéronome 28, verset 7, par exemple, où il est dit que l'Éternel vous comblera de biens, il vous donnera de nombreux enfants, multipliera vos troupeaux, ouvrira pour vous son bon trésor. À quelles conditions ? Si vous écoutez attentivement la parole de l'Éternel et si vous obéissez à tous ses commandements. Mais cette œuvre de Dieu, qui avait commencé jusque-là, a malheureusement été bien souvent détournée de son but par la désobéissance des dirigeants du peuple et déjà bien avant Michée. Je vais donner juste un petit exemple. Le roi Ozias, par exemple, qui a désobéi à Dieu. On voit ça dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 16. Ozias, tellement enflé d'orgueil, c'était un roi pourtant, hein, mais tellement enflé d'orgueil, avait voulu lui-même offrir des parfums à l'Éternel, alors que cette mission était strictement réservée aux prêtres. Et là, pour ça, Dieu l'a puni à titre personnel en le frappant de la lèpre. Et donc, le peuple n'a pas toujours grandi. Il y a eu des reculades, comme cet exemple de Ozias. Toute la nation, finalement coupable, collectivement coupable, subira des revers militaires, des massacres et des exils, y compris ceux annoncés par Michée. Et au terme de tout ce cheminement, cette nation peut effectivement mériter le qualificatif de boiteuse et exilée que nous avons lu dans le texte, versets 6 et 7. Mais l'Éternel, au travers des paroles de Michée, annonce que leur destinée est de devenir un peuple puissant, sur lequel lui, l'Éternel, règnera à jamais pour l'éternité. Quel rétablissement ! Quel rétablissement ! Mais jusqu'à ce rétablissement, le reste fidèle d'Israël devra se contenter de son état de faiblesse dans ce monde pour mieux apprécier la force souveraine du Seigneur le moment venu. Le moment venu étant le « dans l'avenir » que l'on a dans le texte au verset 1. Le verset 8 dit en particulier, le dernier verset qu'on a lu, qui est à l'écran, « Et toi, tour du troupeau, tour citadelle de Sion, ta souveraineté d'antan te reviendra, la royauté que possédait Jérusalem. » Michée ici nous met sur la piste pour discerner un roi issu de la lignée de David. Et on sent, si on tourne un petit peu la page au chapitre 5, on sent que ce roi qui est issu de la lignée de David, eh bien, nous savons, nous, que c'est Jésus. Et vous voyez que par petites touches successives, Michée nous prépare à entendre parler du Messie, de Jésus-Christ. Mais nous le ferons au chapitre 5, plus avant. Et là, maintenant, nous abordons une partie dans ce livre de Michée, du chapitre 4, verset 9, jusqu'à la fin du chapitre 5, que nous ne verrons pas aujourd'hui. Eh bien, c'est tout un passage fondé sur le thème de l'enfantement. Alors, il y a des bébés dans la salle, il y a eu des enfantements dans les mois passés, il y en aura dans les mois futurs, gloire à Dieu. Et donc, c'est intéressant d'écouter ce passage, chapitre 4, verset 9. Et pourquoi maintenant pousses-tu de tels cris ? N'as-tu donc plus de roi ? Ton conseiller a-t-il péri pour que les douleurs t'aient saisi comme une femme qui enfante ? Oui, tords-toi de douleur, gémis comme une femme qui enfante, toi qui habites dans Sion. Car tu devras quitter la ville et camper en plein champ. Tu iras jusqu'à Babylone, mais là tu seras délivré. Car l'Éternel te sauvera du pouvoir de tes ennemis. » Après avoir ouvert l'horizon avec l'annonce du rétablissement dans l'avenir du royaume, sans que ce terme soit précisé, eh bien Michée nous ramène à l'instant présent, à son époque, et avec la réalité de l'état du peuple et avec la réalité de la punition que Dieu va infliger à son peuple. Et cette punition, c'est l'exil à Babylone annoncé au chapitre 3. Et lorsque l'on parle de déportation, on ne parle pas seulement de déplacement de population, il s'agit de conduire en esclavage les survivants d'un massacre à Babylone. C'est donc à la fois la fin du royaume de Juda, la ruine du temple, la déportation que connaît le peuple élu. En réalité, il n'y a pas de plus grand événement dans l'existence du peuple juif que cet exil à Babylone. C'était une épreuve terrible. Et ce n'est seulement qu'après que l'Éternel délivrera son peuple. Le verset 10 nous dit « Tu iras en déportation à Babylone. Tu iras à Babylone en déportation, tu seras déporté. » Mais il rajoute « Mais là, tu seras délivré. » car l'Éternel te sauvera du pouvoir de tes ennemis. » L'image des douleurs de l'enfantement que constitue cet exil permet à Michée de souligner une fois de plus que le jugement doit précéder le salut. Les douleurs de l'enfantement doivent précéder la naissance, et dans ce domaine, il n'y a pas de péridurale qui existe. Nous allons terminer la lecture du chapitre 4. Il y a quatre versets. Mais pour l'instant, de nombreuses nations se sont rassemblées contre toi, qu'elles soient profanées, que nos yeux contemplent la ruine de Sion. mais elles ne connaissent pas les plans de l'Éternel, elles ne comprennent pas ses intentions. Il les a rassemblées comme des gerbes pour battre le blé sur une aire. Debout, foulez le blé, habitants de Sion, je rendrai vos cornes d'acier et vos sabots de bronze et vous écraserez de nombreux peuples. Vous vouerez exclusivement leurs biens à l'Éternel et vous offrirez leurs richesses au Seigneur de toute la terre. Maintenant, rassemble tes troupes, ville de troupes. On nous assiège et l'on frappe au visage à coups de bâton le chef d'Israël. Ce verset 11 commence par « mais pour l'instant ». Le premier verset, c'était « dans l'avenir ». Là, on revient au moment présent. Il souligne que déjà à l'époque de Michée, le peuple d'Israël va connaître un avant-goût de ce jugement, un avant-goût de l'exil, et Michée de rappeler que son pays sera envahi par l'ennemi qui mettra le siège devant Jérusalem. Et il s'agit d'une première invasion assyrienne en 700 avant Jésus-Christ. Les peuples agresseurs sont là, bien présents, aux portes de la ville. Mais ils ne connaissent pas les plans de Dieu, nous dit le verset 12. Ils viennent attaquer, mais ils ne connaissent pas les plans de Dieu. Et Dieu, sans annuler sa décision de déporter son peuple, il va toutefois, peut-être un peu, pas atténuer, mais il va permettre que cette armée assyrienne soit détruite. Et il est intéressant de savoir que dans les annales historiques de l'armée assyrienne, que les historiens ont pu trouver, eh bien, il est question, à cette époque-là, en fait, Dieu a permis qu'une épidémie de peste décime l'armée. Donc Dieu a atténué la peine de son peuple en neutralisant par la peste l'armée assyrienne. Et ce n'est qu'après ces différents événements, le siège devant Jérusalem par les Assyriens, puis la déportation quelques cent et quelques années plus tard, donc vers Babylone, que surviendra le salut que Michée, comme d'ailleurs d'autres prophètes comme Ésaïe, présentent comme venant avec la naissance du Messie, au chapitre 5. Et ce Messie, il est dépeint comme un descendant de David. Mais nous en reparlerons la prochaine prédication sur Michée. Nous ne sommes pas le peuple d'Israël, mais comme Michée nous le recommande au début de son livre, nous devons écouter ce message et donc en tirer des enseignements pratiques pour nous. Et c'est ce que nous allons faire dans les quelques 2-3 minutes qui nous restent. Par ce chapitre 4, Michée nous confirme l'annonce ou la promesse de la très bonne nouvelle d'un règne éternel avec Dieu. Pas pour tout le monde. Pour les restes de son peuple et pour les peuples qui montent à Jérusalem, au mont de l'Éternel, pour y être enseignés et qui suivront ses sentiers. C'est une très bonne nouvelle pour ceux qui considèrent qu'ils seront dans ces peuples qui montent pour être enseignés. Et nous sommes, quand nous venons à Christ, j'anticipe sur la suite, mais quand nous venons à Christ, nous faisons partie de ces peuples. Et la question que je vous pose, faites-vous vous-même aujourd'hui partie de ce peuple, de ces peuples qui montent, qui vont monter au mont de l'Éternel. Le deuxième enseignement, c'est en fait ce saut brutal entre la fin du chapitre 3 qui annonce la destruction et le début du chapitre 4 qui annonce le renouveau, la résurrection du peuple de Jérusalem. Ce grand contraste, pour moi, souligne l'intensité de l'amour de Dieu pour ses créatures et en même temps sa haine pour le péché. Dieu ne peut pas se contenter uniquement de l'amour pour ses créatures. Il doit conjuguer l'intensité de son amour avec l'intensité de sa haine pour le péché. Il n'est pas possible de sortir de cette équation pour ceux qui sont mathématiciens. Et cela nous interpelle et nous incite à considérer le péché comme étant très sérieux. On ne peut pas considérer le péché à la légère. Ce contraste nous pousse à considérer le péché vraiment comme très sérieux. Et les conséquences du péché, c'est la mort éternelle. Le troisième point, c'est que la clé, la solution que Dieu, le grand mathématicien, nous donne pour régler son dilemme, son équation impossible de l'amour et de la haine du péché, eh bien, c'est l'envoi du Messie qui est annoncé au chapitre 5, l'envoi de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui canalisera sur lui cette haine de Dieu pour le péché. Et on peut déjà toutefois être très reconnaissant que ces douleurs de l'enfantement, finalement, elles nous sont épargnées parce que c'est Jésus-Christ qui les porte à notre place sur la croix. Et le défi pour chacun de nous, pour chacun de vous, eh bien, c'est de savoir dans quel camp nous nous rangeons ce matin. Est-ce que nous sommes dans le camp de ceux qui montent au mont de l'Éternel, du verset 2, pour être enseignés et suivre ses sentiers? Ou est-ce que nous sommes dans le camp de ceux qui ne connaissent pas les plans de l'Éternel, qui ne connaissent pas ou ne veulent pas connaître ses intentions et qui seront détruits, comme nous le voyons au verset 12? Dans quel camp sommes-nous? Et je reprends, on ne va pas le faire pratiquement, mais je reprends l'appel qui a été lancé à la fin du culte de dimanche passé, qui invitait ceux qui n'auraient pas encore fait ce pas de placer leur confiance en Jésus-Christ pour leur salut, eh bien de ne pas tarder. Ne tardez pas. Ce texte nous rappelle que nous avons un avenir glorieux avec Dieu, si nous venons à lui aujourd'hui, que nous avons un avenir vraiment très triste et catastrophique si nous ne venons pas à lui. Ce n'est pas de la terreur, ce n'est pas pour faire peur, mais c'est pour prendre conscience d'une réalité. Et c'est ce que je souhaiterais que ce matin, chacun de nous, chacun de vous, vous puissiez faire ce pas si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à venir voir le pasteur ou un ancien pour voir cheminer vers cette victoire en Jésus-Christ. Donc un grand merci au Seigneur pour son sacrifice sur la croix. On voit toute la construction de du plan de Dieu dans ce livre et c'est vraiment très, très émouvant et très sérieux en même temps. Voilà, que Dieu nous bénisse et je vais terminer par la prière. Seigneur, gloire à toi pour ta parole, pour ce texte même un peu difficile à comprendre en première lecture quand on le lit comme ça en surface, mais qui est tellement riche et qui sait nous faire découvrir la richesse de ton amour pour nous. Seigneur, on te bénit parce que tu as voulu nous retrouver, tu as voulu que nous montions sur ta montagne pour être enseignés. Et tu as tout fait pour cela, Seigneur. Nous savons que c'est grâce à l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Et je te remets ceux qui aujourd'hui n'auraient pas encore franchi cette étape dans leur vie. Qu'ils viennent à toi, qu'ils capitulent, qu'ils reconnaissent ta grâce et l'œuvre rédemptrice de ton Fils sur la croix. Bénis toute cette journée, bénis toutes nos familles, bénis ton Église ici et dans la région et plus largement dans le monde. On veut penser, Seigneur, tout spécialement à tes serviteurs que nous soutenons, que ce soit en Bulgarie avec Joël, que ce soit au Togo avec Timothée, Myriam, que ce soit ailleurs encore, Seigneur, partout où tu as tes enfants qui sont à l'œuvre. Seigneur, que l'Évangile progresse, que des vies soient sauvées et transformées. Et bénis pour chacun de nous cette semaine maintenant qui est devant nous. Au nom de Jésus. Amen.